Bienvenue à cet échange autour de Didier Fassin et du livre Sens social partant de crise. Et Didier Fassin, je pense qu'il y a beaucoup de gens vous connaissent déjà, mais je vais quand même vous présenter bien plus avant. Vous êtes anthropologue et sociologue, professeur de sciences sociales à l'Institute for Advanced Study de Princeton et directeur d'études à l'École des hautes études et de sciences sociales. Et vous avez été élu en 2022 professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines. Alors, sachant que vous aviez déjà occupé une chaire, cette fois-ci annuelle, au Collège de France en 2019 consacrée à la santé publique. Donc, c'est une sorte de retour, en fait. Vous aviez pris votre élan. Je vais m'attarder un peu sur votre parcours parce qu'il est effectivement déterminant sur toutes les questions qu'on va aborder pendant la discussion et notamment les questions d'engagement dont il est très fortement question dans le livre. Au départ, vous êtes médecin spécialisé dans les maladies infectieuses, je crois, notamment à la Pitié-Salpêtrière, et vous êtes notamment témoin des débuts de l'épidémie de sida en France. Et c'est au départ en tant que médecin que vous vous rendez dans différentes régions du monde qui après vont continuer à nourrir votre réflexion et vos livres en sciences sociales. Alors, Calcutta, le Sénégal, l'Équateur, l'Afrique du Sud. Et puis, progressivement, vous allez vous poser la question, alors cette fois-ci plus en tant que chercheur en sciences sociales, la question des vies précaires, de la vulnérabilité, des inégalités, en termes de santé, bien sûr, mais aussi socialement et politiquement. Alors, vous allez travailler et écrire sur les orphelins du sida, sur les chômeurs, les migrants, les Palestiniens. Et d'ailleurs, votre leçon inaugurale à la chaire annuelle de santé publique portait justement sur l'inégalité des vies. Dans votre carrière d'auteur et de chercheur, vous faites se succéder des essais très analytiques. Alors, je pense notamment dans les derniers à Punir, une passion contemporaine qui est parue en 2017 au Seuil, ou bien La vie, mode d'emploi critique. On a déjà ce mot de critique qui apparaît en 2018. Et puis, vous les faites alterner ces livres avec des livres d'enquête de terrain au long cours. Et parmi eux, je veux citer notamment deux ethnographies que je pense assez marquantes. La force de l'ordre, une anthropologie de la police des quartiers, c'était au Seuil aussi en 2011, sur le travail de la BAC, la brigade anticriminalité, dans un quartier populaire des Yvelines, je crois. De la région parisienne. Et un autre livre, L'ordre du monde, sur les conditions de détention dans une prison française. Et à chaque fois, vous décryptiez comment les discriminations sociales et racistes s'ancraient dans des lieux parfois difficiles d'accès. Alors, je pense aussi à un autre livre que j'avais envie de citer, qui est un petit peu plus à part peut-être dans votre bibliographie, enfin, en termes de format seulement, c'est « Mort d'un voyageur », une contre-enquête parue en 2020, où vous revenez sur la mort d'Angelo Garan, un homme membre de la communauté du voyage, qui avait été tué par des gendarmes. Alors, certains peuvent parler de faits divers. Vous, au contraire, vous montrez comment c'est un concentré des enjeux que vous documentez depuis longtemps, rapport de pouvoir et domination, racisme et vies inégales. Et puis enfin, au mois de janvier, là, très prochainement, vous allez publier un livre, L'exil toujours recommencé, avec Anne-Claire Desfossés, qui revient, on va y revenir dans la discussion, sur les migrants et notamment sur 5 années de recherche dans les Hautes-Alpes, dans la vallée de Briançon, et sur le passage des frontières. Alors, donc, je l'ai dit, on va parler d'engagement tout au long de cette soirée, d'engagement et d'intervention. Alors, il est important de compléter ce portrait en rappelant que vous avez aussi été vice-président de Médecins sans frontières, président du COMED, Comité pour la santé des exilés, membre du comité scientifique du contrôleur général des lieux de privation et de liberté et du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, donc, c'est « Sciences sociales partant de crise » aux éditions Collège de France, et c'est justement un ouvrage issu de la leçon inaugurale que vous avez prononcée le 30 mars dernier, en introduction à la chaire que vous occupez désormais, donc « Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines », une chaire où vous proposez d'analyser notamment le retour des questions morales dans les enjeux politiques et sociaux qui font notre monde et notre actualité, des lois bioéthiques à l'engagement ou non dans la guerre, puisque malheureusement il y en est à nouveau question, de la question de la laïcité, du port du voile, à celle de la sanction, de la criminalité, et puis bien sûr les questions des migrations Et la crise migratoire, on va revenir sur ce mot de crise migratoire sans doute, montre encore cette semaine que c'est effectivement une actualité forte vu les débats à l'Assemblée et le vote de la loi, le vote rocambolesque de la loi à l'Assemblée avec le Rassemblement national et la majorité. Alors, votre livre s'ouvre sur trois grandes figures intellectuelles, le philosophe Walter Benjamin, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, l'historien Marc Bloch, qui sont chacun à leur manière percutés par la Seconde Guerre mondiale, l'occupation de la France par les nazis, le génocide juif, et chacun va prendre face à cette crise terrible, un chemin différent qui va relever de ses choix, de son histoire personnelle et puis aussi des circonstances. Et donc vous partez de ces trois parcours pour construire une réflexion sur la place des sciences sociales et des chercheurs en sciences sociales face aux crises dans le passé, mais bien sûr surtout aujourd'hui. Alors, pour ouvrir cet échange, je voulais juste vous demander pourquoi, au moment d'entrer au Collège de France, dans cette grande institution, vous avez décidé de faire cette sorte d'introspection, non pas intime, mais en tout cas sur votre discipline et vos collègues, sur la recherche, pour réfléchir au rôle des sciences sociales dans notre société en temps de crise.
Bien, merci d'abord merci à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme d'accueillir cette rencontre, et puis merci Sonia d'avoir accepté cet échange, et puis merci à vous qui êtes là. Lorsqu'il m'a fallu présenter une deuxième leçon inaugurale, ce qui est assez rare, comme vous l'imaginez, sachant que la première, l'inégalité des vies, était véritablement sur un sujet, une thématique et un questionnement qui est central, de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de tout mon parcours en quelque sorte. Il me fallait donc trouver un autre thème, et j'ai pensé que d'une part, la question de la crise ou des crises était une question qui était permanente, ne serait-ce que dans le langage que nous utilisons pour désigner tout un ensemble de phénomènes que nous appelons des crises. Et si on prend n'importe quel quotidien cette semaine, eh bien, le mot crise, on va le retrouver dans de très nombreux de très nombreuses occurrences. Et d'ailleurs, j'avais fait cet exercice sur 24 heures d'archives du New York Times en plein milieu du mois d'août, il y a quelques années, et j'avais trouvé 36 occurrences du mot crise dans le titre ou le résumé de quelques lignes d'articles, donc sur 24 heures. Et ça allait de crise diplomatique à la crise climatique, en passant par des crises dans le sport et dans le cinéma, etc. Donc ce langage de la crise, au fond, il est assez omniprésent et il est pris pour argent comptant, en quelque sorte. Et il me semblait que les sciences sociales, et d'ailleurs, évidemment, je ne suis pas le premier à considérer les choses ainsi, il me semblait que les sciences sociales avaient quelque chose à dire sur les crises, à la fois en reconnaissant qu'il peut y avoir des situations critiques, et c'est le terme d'ailleurs, la formule que je préfère, situation critique, d'un point de vue d'objectivation par les sciences sociales. Donc, il faut prendre au sérieux ces situations critiques, et en même temps s'interroger sur la construction des crises. Il me semblait que les sciences sociales là avaient un rôle important à jouer de décryptage, de relecture critique de ces situations. C'est donc sur un programme que j'avais commencé quelques années auparavant, qui a abordé un certain nombre de sujets dont on sera certainement amené à parler, aussi bien sur la question des migrations, vous l'avez dit, mais sur les questions aussi de prison et de punition. Il m'a semblé qu'il y avait là des objets sur lesquels je travaillais et qui permettait de déployer ce questionnement autour des crises. Et je dirais, en retour, en quelque sorte, en sorte de résonance de cela, le fait que les chercheurs en sciences sociales, chercheurs, chercheuses en sciences sociales, étaient eux aussi, non pas en crise, parce que on peut tout le temps dire qu'on est en crise, mais ça avance pas beaucoup, pouvaient se trouver dans des situations critiques. Et certains, malheureusement, dans des situations, au regard de leur production savante, hein, je ne parle même pas de leur engagement politique, de leur production savante, peuvent se trouver mis en danger dans les pays dans lesquels ils travaillent. Et donc, il y avait en quelque sorte un jeu de miroir entre les sciences sociales pensant la crise et la crise se répercutant sur les sciences sociales, en tout cas sur les personnes qui font les sciences sociales, sachant qu'il y a aussi des attaques jusqu'en France.
Alors, vous relevez un paradoxe dans votre livre, c'est que le mot « crise » et « critique » ont la même origine étymologique. En grec ancien, le substantif « crisis », c'est pas moi qui le dis, hein, je vous ai repris, signifie à la fois l'action de distinguer, de séparer, l'action de décider et de juger. Et pourtant, malgré cette origine linguistique commune, bien souvent, parler de crise, décréter la crise, nous empêche de la penser. Vous dites nommer la crise, c'est ainsi souvent s'exposer au risque de se priver de la pensée. Pourquoi vous dites cela ?
Alors effectivement, il y a cette étymologie commune. Hein, le dictionnaire Le Bailly l'indique, et puis Reinhard Kozelek a réfléchi sur cette communauté étymologique des deux mots, puisque d'un côté ça a été utilisé pendant très longtemps en médecine, hein, jusqu'au XVIIe siècle, en français on ne l'utilise que en médecine, hein, c'est-à-dire c'est à la fois le moment où les choses peuvent basculer soit dans la guérison, soit dans la mort, et donc le moment où le médecin doit intervenir pour prendre les bonnes décisions qui vont orienter vers la guérison plutôt que vers la mort. En grec, c'était utilisé également dans le domaine de la guerre, dans le domaine de la justice, etc. Avec la même double dimension de ce moment qu'est la crise, et de ce jugement qu'il faut avoir et donc qui amène la critique. Donc crise et critique ont la même étymologie. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais pourquoi lorsque dans cette inflation discursive autour de la crise, le fait que le mot crise soit si fréquemment employé, pourquoi est-ce que ça peut poser un problème non seulement à l'éthique, on y reviendra, mais aussi un problème politique, c'est que nommer un phénomène crise engage au moins deux dimensions très importantes, l'affectivité et la temporalité. Donc l'affectivité, en général, quand on parle de crise, on produit un certain type d'affect, et notamment la peur, pas seulement, pas toujours, mais notamment la peur, et c'est une peur qui, très souvent, se déplace de l'objet qui définit la situation critique à des groupes humains qui vont être désignés, on parle parfois de bouc émissaire, qui vont être désignés comme ceux sur lesquels la peur peut porter. On voit dans un certain nombre de situations plus que contemporaines présentes. Donc ça, c'est l'affect le plus souvent mobilisé, c'est la peur. Il peut y avoir aussi la compassion, hein, quand on parle de crise humanitaire, par exemple. Eh bien, si on désigne quelque chose comme une crise humanitaire, par exemple au Yémen, il y a quelques années, on a parlé de crise humanitaire, d'ailleurs on en parle aujourd'hui aussi à Gaza, eh bien, on évite le langage de la guerre, on évite le langage des responsabilités, et on produit un discours compassionnel. Hein, c'est un discours qui a bien sûr sa légitimité, hein, au regard des souffrances subies, mais vécues, mais en même temps, on voit bien qu'on détermine non seulement par le langage on détermine l'existence d'une crise, qui peut toujours se questionner, mais aussi la manière de l'interpréter. Donc, et donc l'affect qui se mobilise. Puis le deuxième élément, c'est la temporalité que ça engage. Dès lors qu'on parle de crise, on est convaincu qu'il faut agir dans l'urgence. On a un phénomène qui appelle une décision, des décisions, des prises de position, des mesures concrètes, une politique, et pouvant aller jusqu'au décisionnisme, c'est-à-dire à une manière de prendre le pouvoir pour le souverain qui doit décider, parfois presque seul, des bonnes décisions à prendre. Or, là aussi, d'une part, évidemment, il y a des enjeux autour de la liberté, autour de la démocratie, dans ces moments de désignation de la crise. Et puis, il y a aussi le fait que toutes les situations dites critiques ne relèvent pas forcément de l'urgence. Je me souviens de quelques années, j'avais organisé un long programme avec des chercheurs du monde entier. Je faisais ça avec le philosophe Axel Honneth. Et c'était autour de crise et critique aux États-Unis. Le cadre était les États-Unis. Une collègue libanaise disait, pour moi, ce mot crise n'a pas beaucoup de sens. Parce que au Liban, nous sommes en crise depuis 30 ans ou 40 ans, et nous avons été de guerre en guerre, de situation politique critique en situation politique critique, etc. Mais en même temps, dès lors qu'on désigne la crise, on va transformer cette temporalité en l'amenant dans le registre de l'urgence. Donc, je dirais que c'est un premier élément de vigilance à avoir par rapport à l'usage du mot crise, non pas pour le récuser, mais simplement pour en comprendre les enjeux en termes d'affect et de temporalité.
Il y a toujours une part de construction sociale. Et est-ce que, là, donc c'est l'actualité sur l'immigration, le mot crise migratoire, par exemple, est-ce que c'est un terme qui a encore du sens aujourd'hui?
Alors, en tout cas, il a du
sens. Enfin, il a beaucoup de sens. Il a de l'impact, en tout cas.
Voilà, c'est ça.
Mais est-ce qu'il a du sens?
Il a beaucoup de force évocatrice pour beaucoup de gens. Et donc de l'impact, vous avez raison. Est-ce qu'il a un sens? Il a un sens dans la mesure où il s'agit d'instrumentaliser la question migratoire pour en faire une crise et ensuite, comme on le voit en ce moment, comme on l'a vu il y a deux jours. Pour prendre des décisions, justement, qu'on ne prendrait pas si on ne disait pas qu'il y avait une crise migratoire, évidemment. J'en donne un exemple qui est, vous en souvenez tous, je crois que c'est en 2018, le navire, l'Aquarius, arrive près des côtes italiennes et le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, déclare que ce bateau n'accostera pas et que les 700 et quelques passagers qui sont des naufragés en réalité, qui ont été récupérés en mer Méditerranée, ne pourront pas descendre. Et vous vous souvenez que ça a été non seulement, ça a créé une tension locale en Italie, mais que ça a généré appelons ça des crises, une crise diplomatique entre la France et l'Italie, puisque le président français a cru bon de qualifier d'hypocrite son collègue italien, président du Conseil, qui lui a retourné le compliment. On avait bien sûr une crise humanitaire à bord du bateau parce qu'il y avait des gens qui étaient malades, des femmes qui étaient enceintes, etc. Et ça a débouché sur une crise au niveau européen, puisque une crise politique, puisque trois pays ou trois ministres de pays l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque, en soutien à l'Italie et donc à son vice-président du Conseil, Matteo Salvini, a lancé un message de constitution d'un front européen contre l'immigration. Et réaction donc de la Commission européenne et ou plus exactement du président de l'Union européenne, de convoquer une réunion des chefs d'État pour résoudre cette question. Donc là, on est dans une crise politique qui débouche du reste sur une crise, disons, morale, dans la mesure où les décisions qui sont prises à ce moment-là reviennent sur des principes fondamentaux en termes d'asile, etc. Donc on voit, on a là quelque chose qui se cristallise avec cette série qu'on peut appeler crise ou simplement défaite, hein, mais assez dramatique. Or, la chose qu'on ne dit pas à ce moment-là, ou les deux choses qu'on ne dit pas à ce moment-là, c'est que je crois qu'à l'époque, il y avait déjà 14 000 ou 15 000 personnes qui étaient mortes en Méditerranée dans des conditions de traversée périlleuse, comme celle justement qui était celle de ce bateau. Mais surtout, on était à un étiage extrêmement bas des migrations venant du continent africain traversant la Méditerranée. Autrement dit, cette crise ne correspondait absolument pas à une situation critique sur le plan démographique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas... il y avait le maire de Lampedusa s'est exprimé à ce moment-là en disant « Crise, quelle crise ? Je ne vois pas de migrants arriver sur mon île. » Donc, on était dans cette situation et j'ai parlé de dissonance épistémique pour ces situations dans lesquelles, justement, où il y a des situations dans lesquelles il n'y a pas de correspondance entre fait objectif et interprétation subjective. Autrement dit, entre situation critique et crise. Et c'est un type de dissonance. Jürgen Habermas disait que pour qu'il y ait une crise, il faut qu'il y ait de l'objectif et du subjectif. Eh bien, là, on avait du subjectif. Tout le monde pensait qu'on était dans une crise très, très grave migratoire et une situation critique qui était inexistante.
Alors pour donner justement des chiffres, en 2015, l'Union européenne avait donc sur son sol 1 million de demandeurs d'asile, ce qui représente 2 millièmes de sa population. Donc effectivement, on voit aussi le ratio que ça représente. Et puis donc, vous l'avez dit, crise subjective, mais crise qui a un impact, on l'a dit, un impact très concret. Notamment, vous dites la crise, le vocable de crise autorise, ça autorise notamment les policiers à parfois avoir des comportements, à lacérer des tentes, par exemple à Paris ou autre, ça autorise aussi ce genre de gestes. Et alors, à contrario, là, on parle de la crise migratoire, pour reprendre l'expression, et qu'est-ce qui se passe avec la crise écologique? Parce que là, c'est peut-être de ne l'avoir pas dit, de n'avoir pas, pendant longtemps, pas parlé de crise climatique, qui fait qu'on n'a pas fait, qu'il n'y a pas eu d'effet derrière, en tout cas au niveau politique et institutionnel.
Alors, c'est là qu'on voit effectivement qu'une crise doit être construite, et que pour être construite, il faut qu'il y ait des acteurs. Et utilisant Benveniste, Émile Benveniste, et son vocabulaire des institutions indo-européennes, je faisais référence au fait que pour qu'il y ait crise, il faut qu'il y ait un auteur. Quelqu'un, c'est pas forcément un individu, ça peut être un groupe, ça peut être un parti, ça peut être un pays, hein, qui déclare, voire un ensemble international, qui déclare qu'il y a crise. Hein. Et par exemple, juste pour rester encore un instant sur la question migratoire, il se trouve qu'en 2015, qui correspond à la période que vous indiquiez, je faisais une enquête en Afrique du Sud sur les demandeurs d'asile et les migrants qui venaient principalement du Zimbabwe, dont vous vous souvenez qu'ils traversaient une situation extrêmement, extrêmement dure, à la fois sur le plan politique et sur le plan économique. Et donc, des centaines de milliers, en réalité des millions de personnes quittaient le Zimbabwe et partaient en Afrique du Sud. Et étant dans des conditions qui étaient souvent assez, assez terribles, dans la rue ou dans des squats du centre-ville de Johannesburg notamment, ou dans des camps à l'extérieur. Et donc on avait, au même moment, on avait un peu plus, autour d'un million en 2015. Parce que sur les deux années, on a à peu près 2 millions, 2015-2016. Mais en 2015, on avait à peu près 1 million de personnes qui arrivaient principalement du Moyen-Orient et un peu aussi du continent africain, qui arrivaient en Europe. Ce sont les chiffres qui sont généralement acceptés. Il y en avait autant en Afrique du Sud, pour une population qui était plus de 10 fois inférieure à celle de l'Europe. Et qui parmi vous a entendu parler d'une crise de l'asile ou d'une crise des migrations en Afrique du Sud? Je pense pas beaucoup. Moi, j'en ai entendu parler parce que j'y travaillais, mais sinon, j'en avais pas entendu parler avant. Et donc, on voit que là, l'Europe avait l'autorité pour décréter la crise. L'Afrique du Sud n'avait pas cette autorité au niveau international, en tout cas, parce que bien sûr, dans le pays, tout le monde savait qu'il y avait cette crise. Mais au plan international, si on parle 2015, crise migratoire, tout le monde va penser à l'Europe. Personne ne va penser à l'Afrique australe. Donc on voit bien qu'il y a cette construction. Alors, pour la crise écologique, effectivement, le réchauffement climatique, pour parler plus concrètement, on sait qu'il y a depuis le milieu du 19e siècle, on a déjà des premiers éléments sur le réchauffement et d'ailleurs du fait d'une savante, d'une femme scientifique et cette connaissance est laissée de côté. Dans les années 60, on commence à avoir un peu plus d'éléments objectifs aussi à montrer. Et ensuite, il y a la création du GIEC, évidemment, et ses premières publications. Mais si vous vous souvenez, parce qu'aujourd'hui, je crois que probablement dans la salle, la grande majorité d'entre vous est convaincue qu'il y a une situation critique au regard du réchauffement de la planète. Mais rappelez-vous qu'il y a quelques années, sous un gouvernement qui se trouve avoir été un gouvernement de gauche, mais peu importe, le ministre de la Recherche lui-même était dans le déni de l'existence du réchauffement climatique. Hein. Donc, ce qui aujourd'hui nous paraît, je dirais à la grande majorité d'entre nous, évident, ne l'était pas il y a deux décennies, par exemple, pour beaucoup, hein, et y compris parmi les savants et y compris parmi les autorités politiques. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour qu'il y ait crise, ou en tout cas pour que la situation critique devienne une crise, c'est-à-dire que les faits objectifs se transforment en une reconnaissance subjective, eh bien, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait des auteurs, comme je le disais, c'est-à-dire des scientifiques, des associatifs, des politiques qui vont mettre cette question sur le tapis. Mais il faut qu'il y ait aussi des images, il faut qu'il y ait des ours sur un petit bout de glace un petit bout d'iceberg qui montre la fonte des glaces. Il faut qu'il y ait des statistiques qui montrent à l'échelle du temps l'évolution de la température, etc. Et donc, ce sont tous ces éléments dont certains sont des êtres humains et d'autres des objets, des instruments, des méthodes scientifiques en grande partie, qui vont arriver à produire une conviction et la reconnaissance du problème. Ce qui, au passage, n'est pas le cas, par exemple, pour les prisons.
Dans le livre, vous citez aussi Lénine. C'est la grande signification de toutes les crises qu'elles rendent manifeste ce qui est caché. Et là, on en arrive au cœur de notre sujet. Pour vous, il revient aux sciences sociales, justement, de contribuer à ce dévoilement. Et c'est là, justement, le rôle des sciences sociales en temps de crise.
Oui, alors, en tout cas, ce questionnement, et puis éventuellement, évidemment, une série de dévoilements, puisque la crise, au fond, devient un moment de révélation de quelque chose. Et donc, il faut... dès lors qu'on ne prend pas la crise pour argent comptant et la qualification qu'elle a pour argent comptant, non pas pour la nier, mais simplement pour l'interroger, on va commencer à se demander, premièrement, d'abord, comme je le disais tout à l'heure, sur quel fait objectif repose ce discours de la crise. Pourquoi on le qualifie d'une façon plutôt que d'une autre, je vais donner l'exemple dans l'humanitaire, mais aussi qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qu'est-ce que ça autorise de, par exemple, dire qu'il y a, assimiler dans le langage de la guerre la survenue d'une pandémie, celle du Covid, parler, utiliser, je crois, comme le président de la République l'avait fait dans une allocution courte, utiliser 7 fois le mot « guerre », eh bien, nous sommes en guerre, eh bien, c'est évidemment préparer l'annonce de mesures qui sont extrêmement radicales et qui sont le confinement que nous avons connu. Alors, il ne s'agit pas dénoncer, ou il s'agit de comprendre. Il s'agit de comprendre que ça a été une stratégie politique qui n'a pas été celle, par exemple, de l'Allemagne. L'Allemagne, au même moment, n'a pas parlé de guerre. La chancelière allemande n'a pas parlé de guerre. Elle n'a pas déclaré un confinement. Il n'y a pas eu de confinement en Allemagne dans la première partie de 2020, lorsque une grande partie du monde s'est confinée. Il n'y en a pas eu en Allemagne. Il y a eu, au contraire, un appel à la responsabilité, etc. Bon. Et alors, donc, qu'est-ce que révélait à ce moment-là la crise, qui n'était pas simplement une crise sanitaire au sens de la maladie? Bien sûr, elle existait. La maladie qui entraîne une mortalité importante, notamment chez les populations les plus vulnérables, notamment les plus âgées, il y avait bien sûr ça, mais il y avait en même temps une crise de politique de santé. Hein, une crise de politique de santé puisque la raison du confinement n'était pas la maladie en tant que telle, bien, évidemment elle était là, mais c'était le manque de lits. Mais le manque de lits, c'est le résultat d'une politique. D'une politique d'ailleurs qui continue, puisque on a en 2022, on a encore plus supprimé de lits qu'avant l'épidémie, qu'on ne le faisait avant l'épidémie. Alors qu'on s'était dit qu'avec l'épidémie, qu'il y avait un problème avec nos suppressions de lits. Donc on voit comment une situation critique, alors là elle existait bien, cette situation critique, la pandémie, peut révéler. Des faits alors qui tiennent à la fois aux choix politiques, aux stratégies, en l'occurrence du gouvernement français, notamment de son président, mais également des choses sous-jacentes, c'est-à-dire des choix néolibéraux, c'est-à-dire réduire la dépense publique dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la santé. Ça, c'est des politiques néolibérales, mais aussi des choix capitalistes qui étaient d'externaliser la production de médicaments dans d'autres pays, notamment en Asie, principalement l'Inde et la Chine, qui faisait qu'à un moment donné, on se retrouvait sans médicaments, d'ailleurs sans masque non plus, comme on n'avait pas de masque, on disait qu'il n'y avait pas besoin de masque, ou que c'était peut-être même risqué d'avoir un masque. Et donc, on voit que la crise déplie en quelque sorte toute une série de choses qui étaient là, mais qu'on ne voyait pas.
Et donc, vous dites que le chercheur n'a pas forcément à dénoncer Il doit dévoiler, il doit décrire, il doit expliquer. On voit quand même de plus en plus aujourd'hui des chercheurs qui vont un peu plus loin et qui partent aussi dans le débat public cette fois. Et même maintenant, ce qu'on appelle des scientifiques de sciences dures, les climatologues, les biologistes, qui vont intervenir dans des tribunes, qui vont répondre plus facilement à la télévision qu'ils ne le faisaient, quittant une sorte de devoir de réserve qu'ils s'imposaient peut-être eux-mêmes. Est-ce que, voilà, il y a plusieurs manières d'intervenir. Vous, d'ailleurs, Didier Fassin, vous le faites aussi. Vous écrivez des tribunes, pas souvent, mais assez régulièrement dans les journaux. Récemment, avant l'été, vous avez écrit notamment dans Libération un texte après la mort de Naël par les forces de l'ordre à Nanterre. Récemment, là, vous avez écrit aussi deux tribunes coup sur coup dans le Monde le 18 octobre et après dans la revue AOC. Deux tribunes où vous revenez sur le conflit israélo-palestinien, où vous revenez sur l'horreur des attentats terroristes du 7 octobre, aussi sur les bombardements en représailles à Gaza. Et vous vous posez la question, notamment face aux hésitations des chancelleries européennes occidentales à demander un cessez-le-feu, vous vous demandez notamment si certaines victimes méritent une vie qui soit plus importante et plus importante que d'autres, et vous alertez aussi sur le risque, vous parlez d'un spectre d'un futur génocide à Gaza. Cette tribune a fait polémique, il y a eu d'autres tribunes, parfois d'ailleurs virulentes, en réponse, puis vous avez aussi répondu, il y a un débat qui s'est... Qu'est-ce qui vous pousse dans des situations, celle-ci ou d'autres, très inflammables, à prendre position dans la sphère du débat public cette fois ?
Il me semble, d'une manière générale, qu'il y a une possibilité, je ne dis pas une obligation, hein, parce que je ne suis pas normatif par rapport au travail des chercheurs et chercheuses en sciences sociales sur l'attitude qu'on devrait avoir dans l'espace public. Je pense qu'on peut très bien ne pas intervenir dans l'espace public. J'ai mené depuis des années une réflexion sur la présence publique des sciences sociales, c'est-à-dire la présence dans la société des sciences sociales. C'est-à-dire qu'il m'est apparu, je vais répondre à votre question bien sûr, mais il m'est apparu très important, non pas comme d'autres l'ont fait en prônant une sociologie publique ou une anthropologie publique, donc non pas de plaider pour une science sociale publique, mais de reconnaître que les sciences sociales avaient toujours un élément de publicité. Nous publions des articles, nous publions des livres, certains font des films. Le mot « publier », hein, c'est « rendre public », et donc nous intervenons dans des espaces publics. Alors, ces espaces publics peuvent être très limités, ça peut être comme ici, entre nous, hein. ça peut être effectivement une tribune dans un quotidien ou une intervention dans un autre cadre à la radio ou à la télévision, et avec là, évidemment, une situation dans laquelle on ne sait pas qui on a en face de soi, on ne sait pas qui va lire, on ne sait pas, et il y a ce phénomène aussi que j'avais décrit, qui est que très souvent, on entend les gens parler sur des choses non pas qu'ils ont lues, mais dont ils ont entendu quelqu'un parler qui l'avait lu ou qui avait entendu lui-même quelqu'un d'autre qui l'avait lu. Hein. Et donc il y a cet effet comme ça de la circulation des idées dans le public, et qu'il faut donc prendre très au sérieux la publicisation, si on veut utiliser ce terme, c'est-à-dire rendre public des analyses, des discours, etc. Pour ma part, parce que c'est quelque chose qui a existé depuis bien longtemps, de s'exprimer publiquement lorsqu'on est un chercheur, dénonçant la torture en Algérie, par exemple, dans les années, à la fin des années 50, début des années 60. Et il y en a prenons Pierre Vidal-Naquet à ce propos, qui est un spécialiste du monde antique, mais qui intervient sur la question de la torture et de la guerre en Algérie. Donc là, il est dans un domaine qui n'est pas le sien, mais sur lequel il prend position politiquement, mais je dirais politiquement, mais aussi avec tout ce qu'il est de savant. On ne se divise pas complètement. Dans d'autres situations, et c'est plutôt en général mon cas, et ça correspond à ce que Michel Foucault appelle un intellectuel spécifique, hein, c'est-à-dire on intervient sur les sujets sur lesquels on travaille. C'est pour ça que j'interviens en général très souvent quand j'interviens, c'est sur des sujets sur lesquels je travaille. Ça a pu être la prison, ça a pu être la police, ça a pu être la migration, parce que c'était des sujets sur lesquels j'ai mené pendant des années des recherches, une ethnographie, j'ai écrit des livres, etc. C'était la légitimité que je pensais avoir, comme bien sûr beaucoup d'autres. Mais évidemment, cette réflexion que j'essaie d'avoir sur qu'est-ce que ça produit que de tenir un discours public m'amène à être toujours extrêmement attentif à ce que j'écris dans ces conditions-là, plus encore que ce que j'écrirais dans un article scientifique, parce que justement, ça sera lu par des personnes qui ne sont pas du même univers, disons, professionnel. Et donc, je suis extrêmement attentif. Et dans le cas présent, au fond, ma première intervention, qui était celle dans Le Monde, reprenait, bien que j'ai un peu travaillé sur le conflit israélo-palestinien, notamment au moment de la deuxième intifada, puisque j'avais mené des enquêtes avec une de mes étudiantes sur les questions du traumatisme et de leur prise en charge du côté israélien et du côté palestinien. Donc, je ne suis pas un spécialiste du tout. Ici, à l'École des hautes études, il y a des spécialistes de la Palestine. Je n'en suis pas un. C'est des sujets sur lesquels... C'est un thème que j'avais abordé dans le passé. Mais surtout, dans les articles du Monde, je l'ai abordé à travers la question de l'inégalité des vies, qui était ce sur quoi j'avais travaillé depuis très longtemps. Et j'avais même fait cette leçon inaugurale déjà et publié un petit livre dans cette même collection. Dans l'article que j'avais fait, sans livrer de secret, mais le Monde avait retiré une partie des arguments que j'utilisais à ce moment-là. J'ai accepté, évidemment, l'article est sorti comme ça, mais j'ai eu envie de reprendre, et notamment de reprendre deux choses qui, je crois, ont prêté je dirais à la fois à confusion, mais aussi à controverse. La première, c'était la référence au mot génocide. Alors, je parlais du spectre d'un génocide, ce qui voulait dire la perspective, et d'ailleurs, c'est comme ça que je le disais, le risque de survenue d'un génocide à ce moment-là. Alors, il se trouve qu'à l'époque, au moment où l'article est sorti, je crois que c'était le 1er novembre ou quelque chose comme ça, en France et en français, c'était un terme qui était très peu utilisé, voire quasiment pas du tout. Dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis, il y avait déjà toute une littérature qui était faite par des spécialistes des génocides et des ce qu'on appelle les genocide studies et holocaust studies, et donc des spécialistes qui utilisaient ce langage-là. Donc je n'inventais, et puis il y avait eu des expertises qui avaient été faites, etc. Donc en fait, je m'appuyais là-dessus en disant, attention, nous sommes dans une situation où nous avons tous les éléments, à la fois intentionnels, des déclarations des ministres israéliens, et de type d'action qui est menée, qui peut correspondre à un génocide. Donc c'était un message d'alerte, un message de prévention. Et je vous rappelle que dans la Convention des Nations Unies sur le génocide, c'est pas simplement punir les génocides, c'est prévenir les génocides. Et prévenir, ça veut dire qu'au moment où quelque chose se produit, c'est un moment où, en tout cas, on peut avoir une responsabilité à intervenir. Et le deuxième élément, c'était la comparaison avec le génocide des Hereros au début du XXe siècle, et dont je reprenais deux éléments. Premièrement, une séquence, c'est-à-dire à la suite d'un accord qu'il y avait eu entre les colons allemands de l'Afrique du Sud-Ouest et les groupes héréros, d'éleveurs héréros. Donc il y a eu un accord, il y avait même un protectorat qui était organisé. À un moment donné, il y a eu une rupture de ce contrat et les colons ont commencé à grignoter de plus en plus de terres, à s'accaparer et à mettre en danger la population héréro. Donc il y a cette phase-là, et puis ensuite il y a une phase brutale, violente, de héréros qui attaquent des civils, enfin des colons, pas civils, des colons allemands, et ensuite une déclaration de soit ils partent les héréros, soit nous les exterminons. Et notamment avec à la fois le passage par les armes et l'établissement d'un siège. Et donc j'ai essayé de d'établir ce parallèle entre ce qui se passe, enfin, reprenant ce moment charnière du 7 octobre, où il y avait eu un massacre d'Israéliens, en essayant de le replacer dans une histoire qui était celle d'après 67, c'est-à-dire un moment où la colonisation, puisque c'est le terme qu'on utilise, hein, c'est pas moi qui invente ce terme, c'est le terme qui est utilisé de façon tout à fait habituelle, et les colons, c'est comme ça qu'on appelle les Israéliens qui mènent ces actions, se trouvaient à mettre en œuvre des actions qui étaient en contradiction avec des résolutions itératives des Nations Unies. Donc on était bien là dans quelque chose où il y a le contrat pré-67 n'était plus respecté, des terres étaient progressivement grignotées, il suffit de regarder les cartes aujourd'hui, de voir comment entre 67 et aujourd'hui l'évolution s'est faite, et qu'il y avait donc ce préalable, cette histoire qui sous-tendait les événements tragiques du 7 octobre. Et que derrière ça, la réponse, qui est à la fois celle des armes, les bombardements, et celle du siège total, avec ce qui s'était passé dans le cas des héros, les problèmes de maladies, de dénutrition et de déshydratation, bien, on était dans une situation qui, me semblait-il, méritait cette comparaison. On peut la discuter, j'en conviens, évidemment, mais en tout cas, c'était ça, les éléments que j'essayais d'apporter, et encore une fois, que j'essayais d'apporter dans une idée de nous faisons des sciences sociales, nous pouvons nous permettre de faire d'établir des parallèles, de les justifier, et ensuite de les discuter, bien sûr, en l'occurrence avec quand même un enjeu qui n'est pas juste un enjeu intellectuel, qui est un enjeu sur des dizaines de milliers de morts. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 20 000 morts, mais ceux parmi vous qui s'intéressent à la question de la mortalité dans les guerres, les morts qui sont déclarés pendant la guerre, c'est-à-dire des gens qui sont tués, donc on voit être tués, cette mortalité-là, elle est très inférieure à la mortalité qui se découvre après par des études épidémiologiques, où on tire au sort des familles on voit les pertes humaines qu'il y a eu, et à ce moment-là, on peut reconstituer ce qu'a été la mortalité réelle dans la période, c'est-à-dire l'excès de mortalité par rapport aux 5 années précédentes. Souvent, c'est comme ça qu'on fait. Parenthèse, c'est ce qui avait aussi eu lieu au moment de, de la canicule de 2005, je crois, je suis tout à fait sûr de la date. Comment ? 2003, merci. Il y a des vrais spécialistes ici. Donc, pendant la canicule de 2003, on a eu, on avait 1500 morts, qui étaient des personnes qui étaient aux urgences, qui étaient mortes, etc. Et puis, lorsque l'INSERM a fait ses comptes, disons, plusieurs mois après, eh bien, on s'est rendu compte qu'on était au-delà de 15 000. Donc, un rapport de 1 à 10, en l'occurrence. Et dans la guerre en Irak, par exemple, eh bien, on a aussi des chiffres qui sont beaucoup plus élevés lorsqu'on fait... Donc c'était, pour moi, c'était ça l'enjeu. J'ai travaillé depuis très longtemps, à la fois comme médecin et maintenant, bien sûr, comme chercheur. J'ai travaillé sur cette question des vies et pour moi, elle était suffisamment importante pour qu'on puisse prendre des risques, parce que je sais très bien que parler publiquement, c'est prendre des risques. Et juste pour terminer sur ce point, aujourd'hui, l'enquête qui a été faite sur plus de 3000 spécialistes du Moyen-Orient dans le monde montre que parmi ceux qui sont aux États-Unis, 88% disent qu'ils se censurent à parler de la situation à Gaza. Et je vais vous donner les chiffres exacts parce que...
Ils se censurent dans leur expression publique.
Voilà, oui, c'est ça. Surtout censure, c'est-à-dire ne parlent pas publiquement, alors qu'ils sont spécialistes du Moyen-Orient, ne parlent pas publiquement de ce qui se passe. C'est 82% pardon, aux États-Unis, et c'est 70% dans le reste du monde pour les spécialistes du Moyen-Orient.
Et ça, c'est une enquête
qui vient de paraître qui est une enquête régulière d'ailleurs qui se fait sur qui se fait sur le Moyen-Orient en général. Hein. Donc 82% aux États-Unis et 70% dans le reste du monde se censurent. Et cette auto-censure, elle porte, parmi ceux qui se déclarent ainsi, ne pas intervenir publiquement alors qu'ils sont spécialistes, eh bien, dans 81% aux États-Unis, dans 81% et en France, dans le reste du monde, en 86%, ne s'exprime pas à propos d'Israël, pour critiquer Israël. En revanche, ils sont seulement 11% à se censurer pour parler de la Palestine, hein, pour critiquer les Palestiniens. Hein. Donc on voit qu'on est là dans une situation qui, bien sûr, vous le disiez tout à l'heure, est inflammable et délicate, mais sur laquelle je pense que... pas simplement sur cette, mais qu'il y a des moments où on peut penser qu'il est important de prendre des risques, et j'en ai pris, et je le savais en le faisant, parce que je crois que les enjeux sont bien plus importants que ce que, disons, ces risques qu'on prend. Et bon, je le cite, je crois, dans un des papiers. Et je dois le citer même sûrement à la fin du livre, j'ai toujours en tête ce qui a été le dernier cours au Collège de France de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est Michel Foucault, et son dernier cours s'intitulait « Le courage de la vérité ». Et je crois que quand on dit « le courage de la vérité », ça veut dire, évidemment, pour des gens qui sont en sciences sociales, ça veut dire qu'il y a une vérité, mais le courage de dénoncer ce que l'on considère comme étant vrai ou comme étant important ou comme étant significatif à un moment donné.
Alors, juste pour revenir sur le sondage, il a été publié, si vous voulez avoir plus d'informations, sur The Chronicle of Higher Education. Donc, vous pouvez le retrouver. On voit bien là une des modalités d'intervention dans les médias, mais une autre modalité d'intervention dont vous êtes... que vous faites souvent, c'est dans vos ethnographies, dans vos études de terrain. Et là, je pense qu'on peut parler des 5 ans que vous avez passés dans la vallée du Briançon pour faire ce livre qui va sortir en janvier au Seuil. Vous écrivez dans le prologue du livre que vous êtes dans un refuge avec justement des migrants, parce que vous-même, vous faites souvent des maraudes pour aller mettre dans des abris des migrants qui seraient perdus dans les montagnes, et que vous êtes alerté sur une situation, il y a une famille qui est perdue justement dans la montagne, vous décidez d'y aller, vous la mettez à l'abri. Donc on voit très bien, et vous dites dans le livre, vous dites d'où vous parlez, on voit très bien à quel point vous êtes aussi inscrit, engagé dans des associations sur place, et en même temps vous faites votre travail de recherche dont vous allez nous parler rapidement, auprès des migrants eux-mêmes, auprès des associatifs, des militants, et aussi auprès des policiers. Donc comment on fait en tant que chercheur, alors qu'on est aussi engagé d'une certaine manière dans ce processus pour faire malgré tout des sciences sociales?
Oui, alors vous avez tout à fait raison. Il y avait pour nous, puisque j'ai fait ce travail avec Anne-Claire Defossé, qui est sociologue, il y avait pour nous un double enjeu qui est d'une part de nature éthique et d'autre part de nature épistémologique ou méthodologique, tout simplement. Sur le plan éthique, il est certain que travaillant sur une frontière que nous avons choisie comme une scène du monde contemporain, sur laquelle se font face, se croisent, interagissent des exilés, c'est-à-dire des personnes qui viennent principalement d'Afrique subsaharienne, un petit peu d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, notamment l'Iran et l'Afghanistan, donc qui arrivent par l'Italie à cette frontière, donc des exilés. Des personnes qui se disent, qui sont des acteurs de la solidarité, ils s'appellent eux-mêmes des solidaires, c'est comme ça qu'ils s'autodésignent, c'est-à-dire des personnes qui font soit des maraudes, c'est-à-dire qui vont dans la montagne, notamment en hiver, pour aller chercher des gens qui sont parfois perdus dans la neige et qui sont généralement pas très bien équipés pour le froid et ces conditions particulières. Et d'autres qui sont dans la vallée à faire de l'accueil, de l'hébergement, préparer les repas, etc., pour orienter les gens pour la suite de leur voyage, ce qu'on appelle le refuge solidaire. Et puis enfin, il y a les autorités publiques qui sont, c'est-à-dire la préfecture, la mairie, etc., qui sont représentées par des forces de l'ordre, qui, lorsque nous avions commencé, enfin, un peu avant le début de notre recherche en 2019, c'était une soixantaine de policiers aux frontières, police aux frontières. Et puis, à la suite de certains événements, cet effectif a gonflé. Il y a eu une militarisation de la frontière, et on arrive aujourd'hui à 250 policiers, gendarmes et autres militaires, notamment des opérations sentinelles, qui sont sur cette frontière. Donc on a trois types d'acteurs, des exilés, des solidaires et des forces de l'ordre. Sur un plan éthique, on peut dire que nous n'étions pas dans une position de neutralité. Pas dans une position de neutralité parce que et d'ailleurs, on s'appuie aussi sur la Commission consultative nationale des droits de l'homme, par exemple, qui déclare que sur cette frontière, les droits humains ne sont pas respectés, et qui dénonce une république qui ne correspond pas à ses valeurs. Donc, ce sont les termes utilisés par la Commission nationale. Et donc, dans ces conditions dans lesquelles la présence policière et militaire entraîne une mise en danger des personnes qui sont obligées de passer par des chemins dans la montagne qui sont des chemins dangereux, eh bien, il est certain que notre posture éthique nous rapproche de ceux qui les aident plutôt que de ceux qui les chassent. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut bien admettre et qui est bien, et je pense, qui est compréhensible et qui serait certainement même partagée par beaucoup d'entre vous, indépendamment de tout jugement sur l'immigration, etc. Mais en même temps, on est des chercheurs et donc on considère que c'est très important d'avoir les points de vue de l'ensemble des acteurs. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus facile de l'avoir des solidaires parce qu'on a, on a plus d'affinité avec eux et qu'en plus, on travaille avec eux. Habituellement, on parle d'observation participante en sciences sociales et notamment en anthropologie, mais en sociologie aussi, d'observation participante. Nous, ce que nous avons fait, c'est plutôt de la participation observante. C'est-à-dire, on travaillait, et puis on observait, on prenait des notes à part, etc. Et puis on a fait aussi des entretiens, très classiquement, travailler dans les archives. Et donc, il nous paraissait absolument important d'avoir aussi, bien que ce soit beaucoup plus difficile, le point de vue des maires successifs. Il y en a un qui était plutôt socialiste, il y en a un qui est des républicains, donc c'était important de voir ces différences. La préfecture, avec plusieurs préfets et préfètes qui se sont succédés, la justice, les magistrats, les juges du siège et procureurs, l'évêque aussi, hein, l'Église jouait un rôle important. Donc, les forces de l'ordre, c'est-à-dire à la fois les représentants des gendarmes et des policiers, ou des militaires et des policiers, et les responsables, et les gens de terrain. C'est extrêmement difficile parce que la police et l'armée sont des grandes muettes, hein, en France en particulier, et donc c'est très difficile. Dans le cadre d'une autre enquête, j'ai eu des contacts avec quelqu'un qui avait été au cabinet du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui a pu contacter des collègues pour que ses collègues téléphonent ou écrivent, je ne sais pas, aux responsables pour qu'on soit enfin reçu. Mais à côté de ça, on a eu des situations dans lesquelles on a été amené à interagir avec des policiers ou des gendarmes, notamment dans mon cas, en se faisant interpeller, auditionner, contrôler de très nombreuses fois. Et toutes ces situations-là ont été autant de moments dans lesquels, à la fois, on a pu voir, dans certains cas, la brutalité de la police, mais aussi découvrir des gens qui avaient, au contraire, qui revendiquaient une bienveillance à l'égard des exilés et une critique de la politique. Qu'on leur faisait mener. Hein. Donc, du coup, cet ensemble qu'on appelle police ou qu'on appelle gendarmerie, eh bien, éclatait en une série de postures, de positions, de logiques qu'on nous présentait et qui nous permettaient de comprendre aussi et de refléter ce point. Donc, je termine là-dessus pour dire simplement que sur cette idée dont vous m'aviez parlé, de la neutralité axiologique qui revient très souvent, qui serait une espèce de position comme ça, un peu en surplomb, qui n'était pas celle de Weber, évidemment. Hein. Weber était un homme très engagé politiquement. Donc, évidemment, le type de positionnement va dépendre des sujets sur lesquels on travaille, mais qu'on peut très bien avoir une absence de neutralité éthique, comme je viens de le dire, et un positionnement épistémologique qui cherche justement à mettre en balance l'engagement qu'il peut y avoir d'un côté, et la distanciation qui est nécessaire de l'autre pour reprendre cette dualité dont parle Norbert Elias.
Merci beaucoup. Malheureusement, c'est déjà le temps de finir la première partie de l'échange. Il nous reste un quart d'heure pour les questions avec vous, enfin, vos questions. Oui, alors, il n'y a pas de micro, donc je vous parlais fort. Est-ce qu'il y a d'autres questions aussi, peut-être, si on en prend? Ah ben vous pouvez. Allez-y.
Puis on prendra plusieurs questions. Donc,
oui, vous pouvez commencer à lever les mains.
Bon, je vous ai... Ça marche?
Oui, très bien.
Il y a une vingtaine d'années, je discutais avec un collègue. Hein, on était effrayés parce qu'on comptait le nombre de morts en Méditerranée, les noyés, c'était 6 000. Alors maintenant, après 20 ans, c'est quoi des centaines
28 000.
22 000 seulement.
28 000.
Seulement.
Enfin, seulement, c'est 28 000 qui sont comptés. C'est déjà beaucoup, mais ils sont comptés, c'est ceux qui sont comptés.
Alors, qui est responsable, hein? Les responsables politiques disent et accusent les passeurs. Et là, on confond cause et effet. Hein? Parce que les passeurs existent, pourquoi? Parce qu'on ne donne pas des visas. Alors, pourquoi on ne donne pas des visas? Parce qu'avec un visa, ils arrivent à Russie confortablement, avec un coût modique, hein? Et en sécurité. Hein? Alors, la vraie raison, je vais maintenant vous choquer. La vraie raison, c'est le manque de respect ou de l'application des lois de la logique. Les lois de la logique sont les lois de vérité, de la rationalité. Autrement dit, hein, on ne donne pas de visa, hein, donc on peut entrer, on ne peut pas entrer sans visa, en même temps, on peut entrer sans, on peut entrer avec visa, non, formule la chose. Hein? Pour entrer, il faut avoir un visa. Hein? Mais pour entrer, il ne faut pas avoir un visa. Hein? Donc ça, c'est la contradiction. Il faut résoudre ce problème-là. Autre chose, concernant Israël, on oublie une vérité, hein, historique. Hein? Pas seulement en 67, il faut revenir au début du siècle. Ils sont venus... Hein,
alors, on va pour... peut-être laisser les...
Okay. Ils sont venus hein, parce qu'ils ont fui l'antisémitisme. Hein? Oui. Okay. Mais au lieu de rester avec les gens sympathiques, comme je suis venu en France, hein, je n'ai pas chassé les Français de leur pays. Hein, eux, ils ont chassé les Palestiniens. Hein, hein, pourquoi? Parce que leur Dieu a donné, leur a donné la terre promise. D'accord? Et après, il leur a demandé aussi de détruire les sept nations, etc., etc. Donc, on oublie ça, surtout libération, on l'oublie. Et ils sont de gauche, alors, mais avec Netanyahou. Bravo.
Donc sur les migrants, finalement, il n'y avait pas tellement de questions, mais peut-être sur les visas, vous pouvez rebondir sur les visas. Et puis je crois que vous aviez une question, monsieur.
Oui, c'est par rapport à votre partie là, sur la prise de risque. Vous l'avez évoqué à titre pas individuel, mais enfin... quand même la question des tribunes, mais quand je regarde ce titre, ce beau titre, la science sociale par temps de crise, c'est pas rien, je pense que c'est interviewé par une journaliste aussi, mais à quotidien, donc il y a aussi, on veut dire, les journalistes qui font un peu une part de travail, on le voit actuellement sur l'idée que la loi qui se vote est en contradiction avec un certain nombre de données des sciences mises à jour par les sciences sociales, par exemple. Voilà. La question est simple et compliquée, mais c'est dans cette espèce d'écart, je ne sais pas s'il est grandissant, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il est très fortement marqué, quoi, entre une certaine façon de faire la politique et les connaissances mises à jour par les sciences sociales de plus en plus accessibles pour les citoyens dont je fais partie. Dans cet écart grandissant, comment, au-delà du risque individuel, par exemple, moi j'ai vu cet échange. Quelle est la place pour être de nos citoyens?
Ben merci. Monsieur, un point important que vous soulevez, celui des visas. Hein, parce que je pense que beaucoup d'entre nous ici, probablement pas tous et toutes, mais beaucoup d'entre nous pouvons voyager dans beaucoup de pays sans visa, ou si nous demandons un visa, nous l'obtenons. J'étais en Belgique il y a quelques jours et je parlais avec quelqu'un dont l'épouse est somalienne et qui disait que sa femme, il n'y avait que deux pays dans le monde où elle pouvait aller sans visa. Et c'est le cas de beaucoup des personnes que nous voyons à la frontière. Hein. Par exemple, un Cubain qui veut échapper au régime sous lequel il est, qui veut rejoindre sa sœur en Espagne, parce qu'évidemment, il y a la question de la langue qui se pose, eh bien, visa refusé, le seul pays, quand on est, pas le seul, mais un des seuls pays, quand on est Cubain, où on peut partir vers l'Europe, c'est Moscou. Enfin, c'est la Russie, et donc c'est Moscou. Donc, il part à Moscou. Donc, pour arriver en Espagne, il va à Moscou. Puis après, il va en Biélorussie, après, il va en Pologne, après, il va en Serbie, après, il va en, en Croatie, puis en Moldavie, puis après, il retourne en Serbie, puis après, en Croatie, etc. Donc, il fait un périple absolument incroyable parce qu'il a, il a très peu de possibilités de visa. Et il y a des... il y a des politistes de relations internationales qui ont fait la comptabilité des possibilités de visa ou d'entrée sans visa pour les différentes nations. Et on voit qu'il y a une coupure très profonde entre, disons pour simplifier, le monde occidental, dont les résidents peuvent circuler dans une grande partie du monde, sans visa ou avec des facilités pour obtenir un visa, et ce qu'on appelle en anglais le sud global, hein, les pays du sud, eh bien, dans lesquels, pour lesquels les habitants ont très peu de possibilités de se déplacer sans visa ou d'obtenir des visas lorsqu'ils les demandent. Donc c'est cette question de l'inégalité mondiale de l'accès à la circulation, à la mobilité, y compris une mobilité temporaire, pas de migration. Hein. C'est quelque chose qui est très important. Sur les risques, alors effectivement, j'aurais dû, je l'ai dit au tout début, mais j'aurais dû insister plus sur le fait que certains chercheurs et certaines chercheuses prennent des risques qui sont bien plus grands que ceux qu'on peut prendre dans un pays comme le nôtre, notamment quand ils sont dans des régimes autoritaires, voire dictatoriaux. Hein. J'étais en Belgique pour une remise de doctorat honoris causa. Trois des docteurs honoris causa de l'Université libre de Bruxelles, il y a quelques jours. L'une, c'était Nasrin Soutoudeh, qui est une avocate iranienne, qui a fait plusieurs séjours en prison pour défendre les femmes, les droits des femmes, etc., et qui actuellement est chez elle, mais en résidence surveillée. Une chinoise ouïghour, Raïleh Daoud, qui vient d'être condamnée à la prison à perpétuité, hein, pour ses travaux d'ethnologie sur le monde ouïghour. Et il y avait Pinar Selek, dont vous savez qu'elle est turque, mais qu'elle est française aussi, et qui ne peut pas, en principe, voyager. Donc, elle était vraiment sous protection, parce qu'elle est sous mandat d'arrêt international, la Cour suprême de Turquie l'ayant condamnée à cause des travaux qu'elle faisait sur les Kurdes, hein, et le Kurdistan, en l'accusant de terrorisme. Et donc, alors qu'elle a été, juste pour préciser quand même, qu'elle a été 4 fois disculpée, hein, par des tribunaux en Turquie. Mais la Cour suprême la condamne à la prison. Donc il y a des gens, dont, des chercheurs et des chercheuses, et il y a aussi des journalistes, monsieur, vous avez raison tout à fait de le dire, et aujourd'hui on sait qu'il y a des journalistes qui meurent à Gaza, mais qui meurent aussi dans d'autres, ou qui sont emprisonnés dans d'autres lieux. Alors, quelle est la place des citoyens là-dedans? Ma position, d'une manière générale, c'est que il y a non pas une division des rôles, mais que la contribution des chercheurs et des chercheuses au changement social est une contribution qui est importante, mais qui est modeste. Enfin, importante au sens où elle est symboliquement elle a vraiment du sens, mais elle est modeste. Et qui est-ce qui, lorsqu'il y a des changements, d'où viennent ces changements? Ou lorsque on parlait de la frontière, qui fait le travail à la frontière d'accueil, de maraude, etc.? C'est pas les chercheurs qui viennent passer plusieurs semaines, plusieurs fois par an, pendant plusieurs années. C'est pas eux, c'est les gens qui sont sur place en permanence, ce sont les citoyens. Donc je crois que le rôle du chercheur, il est réel, il est d'apporter des éléments que d'ailleurs les gens qui sont sur le terrain demandent. Ils demandent cette distanciation, ils demandent cette réflexion. Ils disent tout le temps qu'ils sont pris dans l'action et qu'ils n'ont pas le recul, et puis ils n'ont pas non plus les, les outils que nous avons en sciences sociales, bien sûr, mais c'est très, très important de reconnaître cette... disons, de ne pas, d'avoir cette modestie par rapport justement à ceux dont, qui consacrent l'essentiel de leur activité, qu'elle soit associative, syndicale, politique ou autre, ou journalistique ou autre, à essayer de faire changer les choses. Par rapport à la théorie du choc, bah, on peut dire que enfin, qu'il y a des ponts en quelque sorte entre les deux. Alors pour moi, la théorie du choc est un peu moins une théorie sociologique ou politique qu'une qu'une prise de position forte sur de dénonciation et qui n'est donc pas tout à fait le langage des sciences sociales, de dénonciation de la manière dont on peut être instrumentalisé par à travers ces politiques de choc. Hein. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes, on n'a pas les mêmes entrées en quelque sorte sur le terrain. On ne serait pas forcément en désaccord en tant que citoyen si on parlait des mêmes choses, mais en tant que chercheur, bien on n'est pas dans la dénonciation, mais on est plutôt dans tentative de comprendre, donc dans la compréhension.
Merci à vous. Merci.